Vous écoutez RTL.
Et dans un instant, on paie des impôts sur tout et n'importe quoi. Du savon, des portes, des fenêtres, des chapeaux et même des cartes à jouer. On va vous raconter l'histoire de notre taxe bien-aimée, avec des guillemets. Bonjour, Jean-François Nilsgern.
Bonjour.
Bienvenue.
Ravi de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes fiscaliste et votre micro est un petit peu haut, alors je vais le descendre. Pour que vous soyez plus à l'aise, c'est ça la radio
merci,
en direct.
Merci.
Trop fort, Thierry Bonnet, qui fait tout.
Je fais tout. Depuis quand taxe-t-on les revenus en Europe ?
Alors, en France, c'est une loi du 3 juillet 1914, donc applicable pour la première fois aux revenus de 1916. Aux États-Unis, c'est le 16e amendement, c'est 1913. Donc c'est une idée qui a été sur la table à partir du dernier quart du 19e siècle et qui, en gros, à l'époque de la Première Guerre mondiale, s'est imposée partout en Europe.
Alors avant de taxer les revenus, qu'est-ce qu'on taxait ? Dans notre quotidien.
Tout et n'importe quoi.
Oui, un peu. Mais alors, il faut bien comprendre qu'en réalité, l'impôt sur le revenu, il ne vient pas par hasard. C'est la société, c'est la révolution industrielle, c'est le développement du salariat. Auparavant, si on remonte notamment à fiscalité d'ancien régime, on est sur une taxation qui est beaucoup sur la production agricole, un petit peu sur le foncier, mais comme l'aristocratie ne payait pas d'impôts, c'est un petit peu particulier.
C'est un peu la tête du client en fonction de ce qu'on possède.
Non, alors après, il y avait, et c'est ce dont on va parler, je pense, toute une série de taxes qui portaient sur des objets ou des biens de consommation, divers et variés. C'est là où l'imagination était totalement débridée. Ouais. Voilà. Hein, mais effectivement, alors la tête du client, c'est arrivé. Mais dans des cas un peu particuliers, c'est vraiment arrivé. Mais sinon, effectivement, il y avait généralement une explication. Donc,
c'était plutôt la taille des portes, des fenêtres, le nombre de colonnes. Voilà, toutes les bonnes idées, notamment pour trouver un moyen de nous faire payer des taxes. C'est ce qu'on va vous raconter.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Mon papy et la peau, il faut naître à Monaco.
Les curieux sont sur RTL.
Le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Et les Beatles, Joe Dassin, Florent Pagny, ses impôts font grincer des dents et soulagent un peu
les chanteurs quand ils gagnent bien leur vie, hein, c'est sûr.
Bah oui, ça fait toujours mal et pourtant c'est important. On a reçu le dernier tiers de l'impôt sur le revenu, d'ailleurs un petit rappel, hein, à payer avant le 15 septembre,
oui, n'oublions pas.
C'est important. Aujourd'hui,
moi,
l'État...
Je suis mensualisé, donc bon.
Ah, c'est vrai. Bah, moi aussi, je trouve ça beaucoup plus pratique, comme ça on n'y pense plus. Les taxes, l'État taxe nos revenus, mais ça n'a pas toujours était le cas, et c'est avec ça, dont on parle avec vous, Jean-François Nilsgern, vous êtes fiscaliste, on va voyager dans le temps et on va voir que ces impôts, on les paie depuis des millénaires. Ça commence dans l'Antiquité, que Jules César nous obligeait-il à payer ?
Alors effectivement, Jules César avait inventé la première taxe sur les signes extérieurs de richesse. Donc il avait inventé, ça s'appelait les lois somptuaires. Le terme est resté.
C'est joli.
Tout à fait. Et c'était une taxe d'une part sur les portes et d'autre part sur les colonnes des villas des praticiens romains. C'était pour les encourager à faire preuve de plus de modestie lorsqu'ils construisaient leur maison.
Parce que tout le monde n'avait pas de portes à l'époque ?
Si, tout le monde avait des portes, ouais. Mais c'était en fonction de la taille et du nombre de portes.
Ouais.
Donc quand vous mettiez des portes partout, des grandes portes, ouais, des grands portails et des grandes colonnes, vous aviez une grande villa. Et Jules César n'aimait pas beaucoup le bling-bling, donc il avait créé donc ces taxes qui s'appelaient les lois somptuaires.
Est-ce que ça a des conséquences sur l'architecture, ça ? C'est-à-dire que, est-ce qu'ensuite on s'adapte, du coup, on construit avec moins de colonnes, tout aussi grand, mais moins de colonnes ?
Alors sur Jules César,
non. Vous en prendrez qu'une.
Oui. Ça tient pas. Alors sur Jules César, non, parce que finalement ces lois somptuaires ont été assez rapidement abrogées sous Auguste, donc finalement... ça n'a pas eu le temps d'avoir réellement de conséquences. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'autres taxes qui ont été créées, je pense qu'on va en parler, qui ont été créées sur notamment des éléments de construction qui, elles, ont bien eu des conséquences, ouais, tout à fait réelles.
On va en parler. Alors, quand on taxait les portes et les colonnes des villas, on se dit « Ah bah tiens, c'est dans l'Antiquité qu'est née cette idée de la taxe d'habitation, la taxe foncière ?»
Alors, la taxe sur les portes et fenêtres, quelque part, c'est un peu l'ancêtre de, ouais, la taxe foncière, quelque part. Alors, elle naît, elle revient, si vous voulez, en Angleterre, à la toute fin du XVIIe siècle. Elle est adaptée en France à la fin du XVIIIe, sous la Révolution, 1798. Elle a duré en France jusqu'en 1926, quand même. Donc, c'est pas complètement... c'est pas quelque chose... C'est pas médiéval, hein. Alors... avec des effets extrêmement différents suivant la période et suivant le pays. C'est-à-dire qu'au départ, les Anglais font une taxe uniquement sur les fenêtres. Déjà, ils font une taxe sur les fenêtres, alors ils ont un petit prix forfaitaire pour chaque maison. Et puis, si vous dépassez 10 fenêtres, vous avez une surtaxe.
Et donc à ce personne ne faisait la 11e fenêtre, j'imagine.
Eh bien si, justement, très bizarrement, comme ça ne touchait que la bourgeoisie bien aisée, ils voulaient montrer qu'ils étaient plus riches que les autres, donc ils mettaient y compris des fenêtres en trompe-l'œil, pour dire, nous, on est suffisamment riches, on peut payer la taxe.
Ah oui, c'était la frime.
C'était complètement la frime.
Quelques années plus tard, en 1712, il y a un impôt qui est inventé par la reine Anne d'Angleterre, un impôt absolument incroyable.
Oui, alors, par contre, on va garder...
On va garder deux fenêtres.
Oui, on va garder les fenêtres parce que vous allez voir qu'il y a une suite.
C'est vrai ?
Ouais. Alors, Anne d'Angleterre, elle, c'est les papiers peints. Là aussi, je trouve que finalement, plus toujours le signe extérieur de richesse, plus vous avez de papier peint chez vous, plus c'est grand. Donc, en bonne logique, on taxe le papier peint. Alors là, les Anglais, pas bêtes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils posent du papier blanc et on le peint au pochoir.
D'accord.
Donc finalement, c'est du papier. Ce n'est plus du papier peint.
Et ça a lancé une mode d'ailleurs.
Et ça a lancé à l'époque une mode.
Ce papier peint au pochoir.
Tout à fait, tout à fait. Et ce qui fait que finalement, 1836, l'impôt est supprimé parce qu'il ne rapporte plus rien.
Ouais, et alors, elle se termine comment l'histoire des fenêtres ?
Alors l'histoire des fenêtres, c'est assez compliqué parce que elle se termine assez mal en fait. Parce qu'en même temps, en Angleterre, après les fenêtres, il y a un impôt sur le verre, une taxe de 300% sur le prix du verre quand même. Et c'est comme en France, l'impôt sur les portes et fenêtres, c'est dès la première fenêtre. Donc du coup, ça touche plus que les riches, ça touche tout le monde. Et là, évidemment, du coup, personne construit, mais c'est pas la 11e fenêtre qu'on construit pas. C'est parfois la première, voire la deuxième. Donc c'est un impôt qui est extrêmement mal vécu, taxe sur la lumière du jour. Et qui amène surtout, et Victor Hugo en parle dans Les Misérables, il y a 300 000 cabanes en France sous Louis-Philippe qui n'ont aucune ouverture autre qu'une porte. Donc avec évidemment les conséquences d'hygiène et de salubrité absolument dramatiques. Et donc ce qui fait qu'en Angleterre, l'impôt sur le verre puis sur les portes et fenêtres disparaissent entre 1845 et 1851. Et en France, il est adapté pour disparaître en 1926. Mais là, les conséquences, ce n'était pas du tout la frime. C'était malheureusement pour les plus pauvres de plus avoir de lumière du tout.
Et puis il y a eu un impôt aussi en Angleterre sur les briques. Et ça aussi, ça a joué sur l'architecture future des
tout
maisons
à fait.
Anglaises.
Ben, c'est-à-dire qu'au départ, c'était au nombre de briques. Donc naturellement, ce qu'ont fait les fabricants de briques, ils ont fait briques plus grandes. C'est bien logique,
oui, c'est
puisque
logique.
Vous construisez la même...
Oui, puisque le fabricant, il ne touche rien sur cet impôt,
en fait.
Bah l'État n'y revient rien, évidemment.
Le fabricant, il voit son produit qui est juste taxé. Quoi. Ouais. Donc, fabricant s'est dit, finalement, moi, pour qu'on m'achète mes briques, je fais des briques plus grandes. Et puis, on a dit, on va retaxer les briques plus grandes, mais ils ont fait encore plus grandes. Et puis, alors, finalement, la course au gigantisme s'est arrêtée. Ça a été à la superficie, ensuite.
Alors, vous avez payé un impôt sur vos fenêtres, sur vos briques et sur votre papier peint.
Bah,
ne partez
rien,
pas. Hein. Ah non, vous nous devez encore de l'argent, figurez-vous. Sur vos chapeaux, vos perruques, vos cartes à jouer et même votre savon. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos. Pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric.
RTL.
Je crois pouvoir ici, sans une trucidence, se faire profiter de mon expérience ceux qui, chaque année, devant leur feuille d'impôt, la pisse de peur.
Pardon ?
Pas lisse,
le
peuple.
Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Je disais tout à l'heure à Stéphane Carpentier et Christelle Robière qu'on allait rire grâce aux impôts. Bah, la preuve, grâce aux inconnus. Alors Pierre
Rebs,
c'était
mieux, hein.
Un humoriste des années 60, comme ça. C'était un peu comme Stéphane De Groot, il jouait sur les mots comme ça. En tout cas, nous, on fait un tour d'Europe des impôts les plus fous grâce à notre invité, le fiscaliste Jean-François Nimsgern. Alors, on a parlé d'architecture, beaucoup. On va voir que les rois ont aussi eu l'idée de taxer nos perruques. Alors ça se passe où et quand, ça, cette drôle d'idée ?
Alors ça commence en Prusse. Ça commence en Prusse en 1698. Et où effectivement, pareil, c'est la taxation des signes extérieurs de richesse. Si vous êtes riche, vous avez porté une perruque, vous êtes pauvre, vous n'en avez pas. Et donc, le roi de Prusse, à ce moment-là, appointe un contrôleur général des perruques.
Et donc, c'est-à-dire, il vient soulever les perruques ?
Absolument. Et sous la perruque, vous avez un petit timbre fiscal qui est collé. Et donc, et toute une armée d'inspecteurs des perruques qui vous demandaient de bien vouloir enlever votre perruque et de montrer votre timbre fiscal.
Je suis étonné que ce ne soit pas arrivé en France, cet impôt sur les perruques.
Oui, ça, c'est juste une question de timing. Parce que ça a été repris en Angleterre un siècle plus tard. Ça a été repris donc à la fin du 18e siècle, donc en Angleterre, et ça a remporté au départ un certain succès comme impôt.
avant. Perruque ou chapeau, les deux ?
Alors, les deux. Il y a eu les perruques dans un premier temps qui ont disparu. La taxe a disparu vers 1850 parce que la mode des perruques était passée, plus personne n'en mettait.
Plus personne n'en mettait non plus de perruques parce que si on devait payer des impôts, c'était pénible. On préférait avoir la tête nue, non ? Est-ce que ça peut jouer, ça ?
Non. C'était un mouvement général. Hein. Vous savez, la perruque a plus ou moins disparu. Même vous regardez les présidents des États-Unis, on en parlait tout à l'heure.
Ah, c'est pas une perruque, Donald Trump ?
Non. Enfin, c'était la perruque blanche poudrée, vous voyez.
Ah, d'accord.
On ne mentionnera pas de secret d'État.
Bon, bref, c'était plus à la mode. Et alors, en Angleterre.
Alors, en Angleterre, il y a eu les chapeaux. Il y a eu les chapeaux aussi. Alors là aussi, signe extérieur de richesse. Hein. Et alors là, avec des procédures à n'en plus finir, parce que les chapeliers concevaient toute une série de couvre-chefs, dont ils prétendaient que ce n'étaient pas des chapeaux, mais des bonnets, des bérets, des toques, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a eu la définition légale d'un chapeau. Et il y a eu pendant une dizaine d'années toute une série de procédures. Et pareil, dans le chapeau, il fallait coudre son timbre fiscal. Et quand même savoir que la contrefaçon du timbre fiscal était punie de mort.
Donc ah oui,
vous
pouvez
quand même
plus
pendre parce que vous aviez contrefait le timbre fiscal qui était dans votre chapeau. Ben, c'était de la fausse monnaie. Hein.
Ouais, mais à contrario, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça suscite de la recherche, de l'imagination.
Ah ben de la création,
voilà,
bien évidemment.
Ah, plus d'impôts pour plus de créativité,
voilà,
c'est un bon slogan, ça.
Pour échapper aux taxes, on a toujours l'esprit humain est assez génial. Cet impôt sur les chapeaux, il a duré longtemps en Angleterre ?
Alors, il a duré une quarantaine d'années.
Quand même, oui.
Alors, un autre impôt improbable maintenant, c'est celui sur le savon. C'est une idée anglaise, ça aussi ?
Oui, ça c'est anglais, c'est Cromwell.
Ils sont bons, les Anglais ?
Oui, ça, au niveau fiscal, c'est à peu près les champions du monde.
Ce sont nos maîtres.
Ah oui, ça et les Scandinaves, hein. Ça c'est probablement ce qu'ils ont, oui, c'est vraiment les champions. Alors, ça c'est Cromwell.
Ah, qui Cromwell ?
Alors, déjà...
Si Denis, on se connaît trop bien, on pose les mêmes questions au même moment. Alors,
déjà, Cromwell, il faut savoir, Cromwell est le Lord Protecteur, donc milieu du XVIIe siècle, il y a un conflit militaire entre le roi Charles Ier et le Parlement, à propos d'une question fiscale d'ailleurs, parce que le Parlement ne veut pas que Charles lève des impôts pour aller faire la guerre en Écosse. Mmh. Il dissout le Parlement ne se laisse pas faire, on lève des troupes de part et d'autre, combat, bataille, Charles Ier est décapité et Cromwell devient Lord Protecteur du Royaume. Alors Cromwell, c'était un puritain pur et dur. Et donc, l'impôt sur le savon, c'est parce qu'il trouvait que se laver étant une activité qui généralement se pratique nue, généralement.
Ah, se laver était sale pour Cromwell, c'est
alors,
ça ?
Se laver, c'était pas bien, parce que ça se faisait tout nu.
Voilà,
donc il fallait décourager la consommation de savon, qui pouvait mener à avoir des pensées. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec le savon. Mais
ça a marché ou je ne sais pas, par exemple,
non,
la noblesse ou la bourgeoisie qui aimait sentir bon.
Ça n'a pas marché du tout. Les gens ont continué à se laver et à sentir bon, du moins à cour d'Angleterre, qui était assez en avance à l'époque là-dessus. Hein. Cour de France, à l'époque, on s'aspergeait de parfum et il y avait le bain annuel du roi. Hein. Donc,
annuel, en Angleterre, on se lavait.
On est tranquille.
On se lavait en Angleterre, absolument. Et la taxe ne les a pas découragés.
Alors, Jean-François Nimsgaard, vous publiez Histoire des impôts improbables aux éditions Les Belles Lettres. Et quand on a préparé cette émission, Sidonie m'a dit, mais il y a un impôt qui est complètement dingue, il faut absolument qu'on en parle. C'est celui sur les cartes à jouer. Ça se passe où, ça ?
Ah ben ça, c'est toujours Cromwell.
Ah non, mais les Anglais.
Ah bah oui, le vice. Vous savez, après, le vice, Cromwell détestait ça. Et donc, le vice du jeu. Donc, il taxait très fort les cartes à jouer, 25 fois le prix du jeu de cartes, quand même. Ouais. Et alors, c'est surtout le mode de perception qui était assez génial.
Racontez.
C'est-à-dire que les fabricants de cartes à jouer avaient l'obligation d'aller remettre l'as de pique du jeu à l'inspection des finances. Et vous alliez payer votre taxe à l'inspection et en échange, on vous rendait votre as de pique.
Donc, j'imagine que tout le monde a dû fabriquer des as de pique pour compléter son jeu.
Contrefaçon, fausse monnaie.
Ah, c'est pareil.
Ah, oui.
Mais il y a vraiment eu des gens qui ont été exécutés pour avoir.
Ah, mais à l'époque, il y a des gens qui ont été exécutés pour avoir revolé une pomme.
Oui,
donc,
c'est. Elle a tenu longtemps, cette loi sur les cartes ?
Non, ça a disparu avec Cromwell, c'est-à-dire une vingtaine d'années.
D'accord.
Le savon, pareil, hein, ça a disparu avec Cromwell. Son successeur, qui était le roi Jacques II, restauration de la monarchie, il aimait bien se laver, donc il a supprimé.
Et les charrues, un mot, tiens, allez, il nous reste 20 secondes. Les charrues, c'était où, c'était quand ?
Alors, les charrues, ça, c'est un Scandinave, c'est Erik V du Danemark. Alors, lui, il avait tout compris. C'est-à-dire, comme je vous disais au début, à l'époque, la taxe, elle se faisait sur la production agricole. Et Erik V, il espérait, il n'aimait pas qu'on prenne le risque d'une mauvaise récolte. Alors, il dit, je ne vais pas taxer la récolte, je vais taxer la charrue qui permet de récolter. Comme ça, quoi qu'il arrive, moi j'ai ma taxe.
Bon, allez.
Merci beaucoup, Jean-François.
Vous n'avez pas besoin de compter la récolte.
Merci.
Beaucoup d'autres histoires d'impôts comme ça, passionnantes à lire dans Histoire des impôts improbables. C'est aux éditions Les Belles Lettres.
Bon, et bon courage à tous pour payer vos impôts et le dernier tiers d'ici au 15 septembre.
Vous écoutez RTL.